et bienvenue à Saint-Hervé.
Aujourd'hui, vous allez entendre
un reportage sur Véronique Massonneau,
réalisé par les enfants
de la classe de Madame French.
Véronique Massonneau, elle est née en Bourgogne. C'est une auteure française de littérature jeunesse.
Née en 1970, fille de deux professeurs de lettres classiques, Véronique Massonneau reçoit en cadeau l'amour des mots, des langues et des idées.
À 16 ans, partie seule avec l'une de ses tantes pour un long voyage aux États-Unis. Elle éprouve le bonheur d'apercevoir le monde d'un autre point de vue et contracte définitivement le virus de la bougeotte.
À 17 ans, Véronique Massonneau découvre la philosophie. C'est une révélation.
Elle publie aussi des albums qu'elle illustre parfois et des textes pour presse enfantine. Bayard Milan.
Pourquoi écrivez-vous des livres ?
Bonjour, merci de m'accueillir dans votre classe. Alors pourquoi j'écris des livres ? Je crois que c'est pour partager des choses avec les lecteurs, qu'ils soient des enfants ou des plus grands. Voilà, c'est pour communiquer, je crois.
Combien avez-vous écrit de livres ?
Je crois une trentaine à peu près. Alors il y a des très gros livres, comme un carnet de voyage qui fait 220 pages, et puis des romans qui sont à lire à partir de 14 ans, on va dire. Mais aussi plein d'albums. Donc il y a des albums pour les tout-petits et des albums pour les plus grands, comme vous avez lu. Mais voilà, donc en tout, une trentaine de livres.
Parmi les livres que vous avez écrits, lequel est votre préféré ?
Alors ça, c'est la question impossible. Trop cruelle. Non, chaque livre est important parce que à chaque fois que je commence un nouveau livre, voilà, c'est un projet dans lequel je vais m'investir, je vais travailler. Ils naissent de façon très différente. Parfois, par exemple, pour un carnet de voyage, ça va être, on va commencer par un voyage, donc il y a des rencontres, donc il y a des vrais gens humains que j'ai rencontrés à l'intérieur, donc c'est très important. Après, sur un roman, c'est le sujet qui va me donner envie d'écrire, qui va me porter. Donc j'ai envie, justement, de, comme je disais tout à l'heure, de partager des réflexions sur ce sujet avec les lecteurs. Donc ça va me prendre, par exemple, 2 mois où je vais penser qu'à ça. Et puis sur un album, par exemple celui du Facteur Cheval, je vais aller voir le palais, je vais me souvenir de ce que j'ai ressenti quand j'y étais. Donc voilà, à chaque fois c'est une parenthèse dans ma vie où je vais me consacrer à ce livre, donc il est très important à chaque fois.
Comment avez-vous eu l'envie d'écrire ?
Je crois que j'ai eu envie d'écrire d'abord parce que j'adorais lire, et quand j'avais votre âge, à part dessiner, la chose qui me plaisait le plus, c'était d'ouvrir un livre et de plonger dedans. Je décrochais très facilement de ce qui m'entourait et je devenais un personnage du livre et je rentrais dans l'histoire. Et ça y est, donc j'adorais les albums illustrés parce que j'avais l'impression de rentrer dans un univers, de faire un voyage. Et c'est un peu ce plaisir-là qui m'a donné envie, en grandissant, bien sûr. Après, on réfléchit à ce qu'on veut faire plus tard, etc. Et pour moi, c'est devenu évident que, voilà, il y avait des adultes qui fabriquaient ces fameux livres et que j'allais essayer de faire pareil.
Combien de temps il faut pour écrire un livre entier ?
Alors, il n'y a pas de règle. Bon, déjà, ça dépend de la nature du livre qu'on est en train d'écrire. Par exemple, pour un album pour les tout-petits, où il y a peu de texte, et un roman pour les plus grands où il n'y a que du texte et qui raconte une histoire sur de nombreuses pages, je ne vais pas mettre le même temps. Mais ce n'est pas non plus évident parce qu'il y a des albums, par exemple. Je vais avoir une idée de départ, mais un album, c'est... En même temps, on a peu de pages pour raconter quelque chose. Il faut que ce soit efficace. Il faut que le lecteur soit tout de suite intéressé à l'histoire. Hein, sinon il va le reposer, le livre. Donc c'est une sorte de mécanique aussi de trouver une histoire en peu de pages pour la raconter, qui sont intéressantes, qui surprennent le lecteur, où la fin soit, c'est surtout la chute qui est difficile à trouver dans les albums. C'est-à-dire qu'il faut trouver une fin qui ait du sens, qui soit intéressante, qui surprenne un petit peu, parce que sinon, si on connaît déjà la fin à l'avance, on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout. Donc tout ça, c'est, voilà, c'est une alchimie et ça peut prendre beaucoup de temps. Ce qu'il y a, c'est que c'est du travail qui se passe dans ma tête. Il n'y a pas d'écriture. C'est-à-dire que je peux réfléchir pendant 6 mois à une histoire sans rien écrire. Parce que j'attends d'avoir tous les éléments qui mûrissent, etc. Alors, je ne reste pas 6 mois à me tourner les pouces dans mon bureau. Je travaille sur d'autres choses pendant ce temps-là. Mais, et pour vous donner un exemple, du fait qu'on ne sait pas du tout à l'avance combien de temps on va mettre pour écrire un livre, par exemple, j'ai écrit 2 romans pour les adolescents. Le premier, j'ai mis 2 mois. Et le second, j'ai mis 3 ans. Donc, ça vous donne une fourchette de ce qui peut se passer. Voilà.
Combien de temps passez-vous par jour à écrire ?
J'ai pas d'emploi du temps bien précis. Voilà, ça dépend sur quel projet je travaille. Comme je disais tout à l'heure, parfois j'écris pas vraiment. C'est-à-dire que je réfléchis, je cherche des idées, je me documente. Parce que par exemple pour la collection Pont des Arts, voilà, il faut se renseigner sur la vie du facteur cheval, par exemple, son œuvre, etc. Donc ça fait partie du travail sur le livre, mais c'est pas de l'écriture. Et puis après, il faut attendre que les idées mûrissent, il faut regarder plein de choses. Donc, c'est pas de l'écriture pure tous les jours, de telle heure à telle heure. Ça va être beaucoup plus souple. C'est difficile de quantifier. Mais moi, si je pouvais travailler... je sais pas, 15 heures par jour, moi j'adorerais. parce que voilà, je peux travailler en réfléchissant, je peux marcher en travaillant, je peux faire plein d'autres choses en même temps. Et puis quand j'illustre, justement, c'est aussi une autre façon de travailler. Voilà, tout se mélange un peu, la vie et le travail.
Quel était votre dernier voyage ?
Ah, mon tout dernier voyage, c'était un voyage très court. Je suis allée à Lausanne, en Suisse. Et voilà. Et parce que à Lausanne, il y a un musée. Enfin, ça s'appelle la collection de l'art brut. Donc l'art brut, ça vous fait peut-être penser au facteur cheval, justement. Et je savais que cette collection était très intéressante et j'avais envie de la voir. Et du coup, ben, j'ai pris ce prétexte pour emmener ma famille à Lausanne en week-end.
Malin.
Et j'ai fait un petit carnet de voyage. Voilà.
Facteur cheval. Joseph Ferdinand Cheval, né le 19 avril 1836 à Charmes, sur l'Herbasse. Il rentre à l'école à l'âge de 6 ans et la quitte à 12 ans. Ses parents décèdent quand il a 11 ans.
Joseph Ferdinand Cheval a 20 ans, il est apprenti boulanger à Valence.
En âge de faire son service militaire, il en est exempté. Peut-être en raison de sa taille, je exerce plusieurs métiers dans sa vie. Boulanger, agriculteur, puis facteur.
Avril 1879, Ferdinand Cheval, facteur rural âgé, alors de 43 ans, bute sur une pierre si bizarre lors de sa tournée qu'elle réveille un rêve. Il va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul un palais de rêve.
Dans son potager, inspiré par la nature, les cartes postales et les premiers magazines illustrés qu'il distribue.
Pour distraire mes pensées, je construirai en rêve un palais féerique.
Ferdinand Cheval. C'est Ferdinand Cheval qui a inventé l'art brut.
On peut visiter le palais idéal à Autry dans la Drôme.
Pourquoi avoir écrit un livre sur le palais idéal du facteur cheval ?
C'est une histoire qui vient de la collection qui s'appelle Pont des Arts, où l'idée de départ, c'est qu'un auteur invente une histoire, une fiction pour les enfants, pour entraîner les enfants, les emmener dans l'univers d'un artiste. Et alors, j'ai commencé par un livre qui s'appelle Voyage sans un nuage, inspiré d'une œuvre de Chagall. C'est le premier que j'ai écrit dans cette collection. Et puis après, il y a eu La Grande Vague, etc. Mais depuis le début, depuis que j'ai été recrutée par l'éditrice pour travailler dans cette collection, j'ai dit, si un jour vous faites le palais idéal du facteur cheval, je veux l'écrire. Alors au début, mon éditrice, elle ne connaissait pas le palais idéal, elle ne l'avait jamais visité. Et elle m'a dit, bon, je garde cette idée dans ma tête et puis on verra. Et alors à chaque fois que j'avais fini un album, je lui disais, et le palais idéal? Et voilà, et un jour, elle a dit oui. Et du coup, voilà. Mais d'où venait cette envie? C'est parce que j'adore cet endroit. Il est complètement magique. Et puis alors, je trouve que pour des enfants, c'est... Voilà, moi, je l'ai visité enfant, justement, adolescente. Et ça m'a... Enfin, c'est tellement extraordinaire que j'avais envie de partager. C'est très inspirant, donc voilà.
Pourquoi l'appelle-t-on palais idéal?
Alors on l'appelle palais idéal. Idéal, ça veut dire que ça vient finalement des idées, ça vient de la tête. Il est sorti vraiment de la tête de ce facteur. Il l'a rêvé, c'est un palais de rêve, comme vous avez dit tout à l'heure.
Pourquoi y a-t-il autant d'animaux ?
Alors ça, c'est parce que vous avez dit aussi tout à l'heure qu'il était inspiré de la nature. Et donc, le facteur cheval... Alors, à la fois, il y a des choses qui viennent du quotidien, de la nature autour de lui, et à la fois de choses qu'il a imaginées, qu'il a... Justement, comme on est dans le rêve, alors il y a des animaux qu'il n'avait jamais vus en vrai, mais qu'il avait vus sur les revues qu'il distribuait, sur les cartes postales. Donc, voilà. Après... Moi, je ne peux pas répondre à la place du facteur. Moi, j'ai repris ces animaux à lui, je les ai animés, on va dire. Mais voilà.
Le palais idéal parcourant chaque jour une trentaine de kilomètres pour ses tournées en pleine campagne. Facteur cheval va ramasser des pierres aidées de sa fidèle brouette. Son palais de rêve est achevé en 1912. Au cœur d'un jardin, il imagine un palais inhabitable.
Peuplé d'un incroyable bestiaire, pieuvres, biches, caïmans, éléphants, pélicans, ours, oiseaux, mais aussi géants des fées. Des personnages mythologiques ou encore des cascades, des architectures de tous les continents.
Dans le palais idéal, il y a trois statues de Vercingétorix, de Jules César et d'Archimède. Moi, je vais parler de Vercingétorix. Vercingétorix, du temps où la France s'appelait la Gaule, le pays était occupé par plusieurs peuples, parfois amis, parfois ennemis. Pour lutter contre les armées romaines de Jules César, qui avait envahi la Gaule, ces peuples allaient pour la première fois combattre ensemble, derrière un seul chef, Vercingétorix, chef de tous les Gaulois. Vercingétorix est devenu chef gaulois grâce à ses idées et ses stratégies. Il a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il s'est battu courageusement contre les Romains. Il se rend à Jules César en 52 à Alésia.
Tu veux bien pour nos auditeurs décrire un petit peu ce qu'on a devant les yeux là ? Raconte-nous ce que c'est.
C'est un planisphère du monde.
Ok, une carte du monde. Et il y a des pays de colorier. Tu pourrais nous dire ce que c'est ces pays ?
C'est les pays où par exemple, il y a des pays où il y a marqué Jules César et Vercingétorix. Ils se sont battus en Suisse et c'est pour ça qu'on a colorié la Suisse.
Celui-là, c'est quoi comme pays et pourquoi vous l'avez colorié ?
C'est l'Algérie. C'est pour la maison carrée d'Alger.
Et le pays d'à côté, là, celui-là ?
C'était pour des momies clopin-clopin.
Des momies clopin-clopin. Tout ça, je précise que c'est dans le livre, en fait.
Ouais.
C'est ça, hein, parce que oui, les auditeurs, ils peuvent se demander de quoi ils nous parlent. Et celui-ci, c'est quoi comme pays ?
C'est l'Inde.
Et qu'est-ce qui se passe en Inde ?
Archimède fait son expérience.
Archimède fait son expérience. Et on apprend donc que Vercingétorix et Jules César, a priori, l'histoire ne le dit pas, mais se seraient réconciliés en Suisse. Donc voilà, pour la Suisse, c'est un pays neutre, les enfants, depuis très longtemps. Donc ça fait toujours beaucoup rire, ce genre de blague. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ?
Tous les animaux qui sont représentés dans le livre du facteur cheval. Le colibri et le dromadaire.
Le colibri et le dromadaire. Alors moi j'aime beaucoup celui-ci.
Le bouc à barbiche.
Oui, je sais pas, c'est le côté barbiche. Ça me fait beaucoup rire, je pense. Et alors là, qu'est-ce qu'il y a décrit tout ça là ? C'est quoi ?
Le bestiaire du palais idéal du facteur cheval.
Disons que là, il y a un mélange entre les animaux qui sont sculptés dans le palais et puis les animaux comme l'illustratrice les a représentés.
D'accord.
Même si elle s'est inspirée évidemment de ce qui était dans le palais.
De choses voilà. Réelles.
Qu'est-ce que l'art postal ?
Alors l'art postal, c'est une forme d'art brut finalement, qu'on peut dire, puisque c'est un art qu'on peut pratiquer, enfin que tout le monde pratique, enfin... que tout le monde peut pratiquer, je veux dire, sans avoir fait une école d'art, etc. Donc, il y a des liens entre l'art brut et l'art postal. Et comme le facteur cheval était facteur, hein, puisqu'on vraiment on connaît son histoire, enfin, son nom commence par son métier. Donc, le facteur cheval, on a eu l'idée avec Isabelle Charly de faire des liens, justement, entre l'art brut et l'art postal, par le palais. Alors vous, à Blois, vous avez la chance d'avoir un musée que je n'ai pas encore visité, je vais y aller cet après-midi, qui s'appelle la Fondation du Doute. Et la Fondation du Doute, je pense qu'il y a plein de liens avec l'art brut et l'art postal. Et j'ai amené des choses dans mon sac tout à l'heure pour vous montrer justement des exemples d'art postal. Vous, vous en avez fait, puisque je crois que vous avez créé des timbres.
Bah oui, on
peut les avoir. Voilà. Ils sont exposés ou ouais, c'est ça ? Donc je les verrai quand même. Voilà. Et ben, il y a tout. Bon, l'art postal, c'est tout l'art qu'on peut faire à partir du principe du courrier et des objets qui ont un lien avec le courrier. Parce que alors, il y a l'art postal et l'art posté. En anglais, on dit le mail art et ça recouvre tout. En français, on peut dire art postal. En général, c'est ce qu'on dit. Mais art postal et art posté. Alors l'art postal, par exemple, vous, vous avez fait de l'art postal parce que vous avez inventé des faux timbres. Et puis, par exemple, les gens qui décorent ou qui font des boîtes aux lettres originales, ça, c'est de l'art postal aussi. Et puis l'art posté, c'est les choses artistiques qu'on s'envoie par la poste. Bon, en gros, on a le droit de dire art postal pour tout. Hein. Mais du coup, voilà, il y a des gens dont la spécialité, par exemple, en tant qu'artiste, c'est de fabriquer des faux timbres. Et il y a même des gens qui ont fabriqué des faux timbres qui sont tellement proches d'un vrai qu'ils postent leurs œuvres, enfin, leurs enveloppes, leurs lettres avec et que personne ne remarque que ce sont des faux timbres. Et donc, ils voyagent vraiment.
Qu'est-ce que l'art brut ?
Ah, du coup, l'art brut.
Voilà. L'art brut. Alors, le nom art brut a été inventé, on va dire, par Jean Dubuffet, qui était un artiste français que vous connaissez. Je vois que ça vous parle, bravo. Et en fait, ça désigne, justement, comme le facteur cheval, c'est-à-dire des œuvres d'art qui sont réalisées par des gens qui n'ont pas fait d'école d'art, qui ne se sont pas destinés à être artistes, qui ont découvert l'art finalement par eux-mêmes parce qu'ils avaient une sorte de feu, de création, une envie de créer qui est plus forte qu'eux. Voilà, alors ça peut aussi recouvrir, justement à Lausanne, on voit ça, des gens qui sont très peu instruits, qui ont eu des problèmes psychiatriques, qui sont enfermés à l'hôpital, qui sont... Enfin voilà, des gens qui ont aussi des gros problèmes, mais qui s'expriment à travers l'art, parce que voilà, c'est quelque chose qui est très important pour eux, et ça produit des œuvres extraordinaires qui ne sont pas exposées dans les musées classiques, hein, c'est pas... Voilà, ils n'ont pas fait d'école d'art, ils ne sont pas allés aux Beaux-Arts, ils n'ont pas... Voilà, mais c'est très très fort parce que ça parle vraiment de l'humain, de la vie, de la création.
Merci.